Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié chez Perrin et repris dans la collection Tempus. Erich von Manstein, le stratège de Hitler de l'historien Benoît Lemay, est une biographie critique consacrée à l'un des principaux chefs de la Wehrmacht. L'ouvrage suit la trajectoire d'Erich von Manstein, depuis sa formation dans la tradition militaire prussienne jusqu'à ses responsabilités durant la Seconde Guerre mondiale, puis à la mémoire construite autour de son nom. Lemay examine ses interventions dans les campagnes de Pologne, de France et d'Union soviétique, en accordant une place centrale au plan de 1940 et à sa réputation de grand praticien de la guerre de mouvement. Mais le livre ne se réduit pas à l'histoire d'un commandant brillant. Fondé notamment sur des archives alors peu exploitées, il confronte l'efficacité opérationnelle de Manstein à son inscription dans la guerre nazie d'anéantissement. Son objectif est donc double: analyser un savoir militaire réel et établir les responsabilités politiques, idéologiques et criminelles qu'une lecture uniquement tactique tendrait à dissocier. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le plan de 1940 est la construction d'une réputation de stratège exceptionnel. Lemay accorde une importance majeure à la campagne de France, car elle explique largement la place singulière de Manstein dans le panthéon militaire allemand. Manstein est associé au projet qui privilégiait une offensive principale à travers les Ardennes, suivie d'une poussée rapide vers la Manche. Ce choix rompait avec une approche plus prévisible de l'invasion de la France et des Pays-Bas. Le succès allemand de mai-juin 1940 a transformé cette option opérationnelle en preuve de son audace intellectuelle. Même si une campagne ne saurait être attribuée à un seul homme, elle dépend aussi des décisions du haut commandement, de l'exécution par les unités et des erreurs adverses. La biographie permet ainsi de distinguer l'élaboration d'une idée, son adoption institutionnelle et son application sur le terrain. Elle montre également comment la victoire a nourri une image durable de génie militaire, reprise par des contemporains, par les mémoires de guerre et par une partie de l'historiographie. L'intérêt du livre est de ne pas simplement répéter cette légende. Il replace le talent de Manstein dans les structures de la Wehrmacht et dans les circonstances particulières d'une victoire spectaculaire. La compétence stratégique apparaît comme un objet historique à examiner, non comme une excuse ou une qualité détachée de ses effets politiques. Deuxièmement, des campagnes à l'Est inséparables de la guerre d'anéantissement nazie. Le traitement du front de l'Est constitue le correctif essentiel à une biographie centrée sur les seules manœuvres. Dans les territoires soviétiques occupés, la guerre menée par l'Allemagne nazie ne visait pas uniquement la défaite de l'armée rouge, elle associait conquête territoriale, destruction du bolchevisme et persécution des populations, au premier rang desquelles les juifs. Lemay examine Manstein dans ce cadre institutionnel et idéologique. Les ordres relatifs aux commissaires politiques soviétiques et la coopération entre les forces armées et les dispositifs meurtriers nazis empêchent de présenter la Wehrmacht comme un acteur extérieur aux crimes du régime. L'enjeu analytique n'est pas de supposer que tous les commandants occupaient la même position ou exerçaient les mêmes fonctions, mais d'étudier les responsabilités concrètes liées au commandement, aux directives transmises et à l'absence de rupture avec cette politique. Le livre met donc en cause une séparation commode entre le professionnel des opérations et le criminel idéologique. Chez Manstein, la valeur militaire reconnue par nombre d'historiens coexiste avec l'acceptation et l'application d'un ordre de guerre criminel. Cette articulation rend compte de la nature du conflit germano-soviétique bien mieux qu'une histoire limitée aux batailles, aux cartes et aux décisions de manœuvre. Troisièmement, l'aristocratie militaire prussienne face à Hitler, convergence plutôt qu'opposition simple. Lemay utilise le cas Manstein pour éclairer le rapport complexe entre la caste militaire prussienne et le régime hitlérien. Une vision réductrice opposerait mécaniquement des officiers conservateurs, attachés à leur tradition, aux dirigeants nazis considérés comme des intrus. Or, les distances sociales ou culturelles qui pouvaient exister n'empêchaient ni les convergences idéologiques, ni la coopération pratique. L'anticommunisme, le nationalisme, l'aspiration à réviser les conséquences de la Première Guerre mondiale, et chez nombre d'officiers, l'antisémitisme facilitait cette rencontre. La fidélité au serment prêté à Hitler renforçait en outre une conception de l'obéissance qui rendait la dissociation entre devoir envers l'État et loyauté personnelle envers le Führer particulièrement difficile. Le livre ne prétend pas que Manstein fût un nazi identique au cadre du parti. Il s'intéresse plutôt aux mécanismes par lesquels un officier issu d'un milieu conservateur a pu servir durablement un régime radical. Cette nuance est décisive. Elle évite à la fois l'assimilation sommaire de toutes les élites militaires au parti nazi et le mythe inverse d'une armée foncièrement honorable, compromise seulement sous la contrainte. La biographie devient ainsi une enquête sur les conditions intellectuelles et institutionnelles de la complicité. Quatrièmement, le commandement opérationnel audace, mobilité et limite d'un talent militaire, la force de Manstein comme commandant tient, selon sa réputation historique, à sa capacité de penser la guerre à l'échelle opérationnelle, le SEL, relier les objectifs stratégiques au mouvement des armées, identifier un point de décision et exploiter rapidement le déséquilibre créé chez l'ennemi. Lemay prend cette compétence au sérieux, notamment dans l'étude de ses campagnes et de son commandement sur le front soviétique. Cela permet de comprendre pourquoi Manstein fut souvent présenté comme l'un des meilleurs généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la biographie évite de convertir cette reconnaissance en jugement global sur l'homme ou sur la guerre allemande. L'audace peut produire des succès locaux ou temporaires sans remédier aux impasses d'une stratégie nationale. À l'Est, les victoires tactiques et les contre-attaques ne pouvaient annuler l'usure des forces, les ambitions démesurées du Reich, ni la supériorité croissante des ressources soviétiques. Manstein lui-même entretenait des désaccords avec Hitler sur la conduite des opérations, mais ces conflits ne font pas de lui un opposant politique au régime. L'analyse distingue donc la critique professionnelle du Führer de la rupture morale ou politique avec le nazisme. Cette distinction préserve la précision militaire tout en empêchant que l'habileté du commandant soit transformée en réhabilitation. En dernier lieu, démystifier l'après-guerre mémoire, procès et persistance de l'image du soldat politique, une biographie de Manstein ne peut s'arrêter à 1945, car son image publique fut activement façonnée après la défaite allemande. Ses mémoires, ceux de ses anciens compagnons d'armes et le contexte de la guerre froide ont contribué à diffuser l'idée d'une Wehrmacht techniquement remarquable mais politiquement séparée des crimes nazis. Manstein a également occupé une place importante dans les débats sur le réarmement ouest-allemand et la reconstitution d'une armée, ce qui renforça son statut de référence professionnelle. Lemay réinscrit cette postérité dans l'ensemble de son parcours. Les discussions sur son jugement et sur ses responsabilités ne sont pas un appendice juridique, elles révèlent les tensions entre mémoire militaire, nécessité politique de l'après-guerre et établissement des faits historiques. Le livre invite ainsi à lire avec prudence les récits justificatifs des généraux allemands. Ceux-ci peuvent contenir des informations précieuses sur les opérations tout en cherchant à minorer leur adhésion, leur choix ou leur connaissance du caractère criminel de la guerre. Cette approche critique est particulièrement utile face au prestige persistant de Manstein. Elle ne nie pas ses capacités de planificateur et de commandant. Elle montre pourquoi ses capacités ont longtemps facilité une représentation sélective de sa responsabilité. La question centrale devient alors celle des usages publics du passé, autant que celle de la carrière militaire elle-même. En conclusion, Erich von Manstein, le stratège de Hitler, s'adresse en priorité aux lecteurs d'histoire militaire qui veulent dépasser l'admiration technique pour les grands commandants de la Seconde Guerre mondiale. Il intéressera aussi les lecteurs travaillant sur la Wehrmacht, le front de l'Est, les élites conservatrices allemandes et les débats relatifs à la responsabilité des institutions dans les crimes du nazisme. Son principal bénéfice intellectuel est d'apprendre à tenir ensemble des éléments souvent séparés la qualité d'un raisonnement opérationnel. Les contraintes d'une chaîne de commandement, les convictions d'un officier et les conséquences humaines de la guerre qu'il conduit. Cette méthode aide à éviter deux simplifications symétriques, réduire Manstein à un génie militaire abstrait, ou croire que constater son talent revient à absoudre ses actes et son engagement. L'ouvrage se distingue des biographies davantage centrées sur les campagnes par son ambition démystificatrice. Lemay ne traite pas la guerre comme un domaine autonome, gouverné seulement par la technique, les cartes et les rapports de force. Il met les opérations en relation avec l'alliance effective entre la Wehrmacht et le régime hitlérien, ainsi qu'avec les politiques d'occupation et de destruction à l'Est. Cette perspective donne une profondeur particulière à l'étude d'un personnage souvent exalté par ses mémoires et par la tradition militaire d'après-guerre. Pour un lecteur, le livre offre donc à la fois une entrée substantielle dans la carrière d'un maréchal allemand et un outil critique pour comprendre comment une compétence professionnelle peut être mise au service d'un projet politique criminel. Si vous souhaitez soutenir Benoît Lemay, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.